RFI, 8h à Paris, 7h en temps universel.
RFI Matin.
Et un nouveau journal avec vous, Jeanne Bartoli. Dans cette édition, en Israël, les familles d'otages retenues à Gaza retiennent leur souffle.
Trois libérations sont prévues. Elles sont imminentes ce matin, des libérations grâce à la médiation cette semaine du Qatar et de l'Égypte pour faire tenir le cessez-le-feu entre le Hamas et Israël. En échange, 369 prisonniers palestiniens devraient retrouver leur liberté. Nous sommes à Jérusalem dans un instant. À la une également, le groupe armé du M23 épaulé par le Rwanda qui progresse dans la province congolaise du Sud Kivu. Nous rejoindrons notre envoyé spécial permanent à Kinshasa. La conférence sur la sécurité à Munich, en Allemagne, l'Ukraine au cœur des discussions hier. Mais la journée aura surtout été marquée par des attaques américaines contre le modèle européen. Il promet un changement de programmation et la fin de la culture woke aux États-Unis. Donald Trump nommé à la tête de l'une des plus prestigieuses institutions culturelles du pays. Et puis voilà une cérémonie qui n'aurait pas plu à Donald Trump, les victoires de la musique en France. Les quatre cérémonies des Jeux Olympiques de Paris réalisées par Thomas Joly ont été primées.
Et direction tout de suite Jérusalem.
Où l'on attend d'un instant à l'autre la libération de trois otages israéliens retenus dans la bande de Gaza depuis 16 mois. C'est le sixième échange d'otages contre des prisonniers palestiniens. 369 prisonniers palestiniens devraient être libérés aujourd'hui. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Jeanne, bonjour à tous.
Ces libérations de trois otages israéliens qui s'accompagnent, Michel, comme souvent, d'une mise en scène de la part du Hamas.
Oui, dernier préparatif à Khan Younes. Sur une place centrale, une estrade a été construite pour la cérémonie de remise des otages aux délégués du Comité international de la Croix-Rouge qui sont en route, indique-t-on, vers ce point de ralliement. Une inscription en arabe, anglais et hébreu. Émigration seulement vers Jérusalem. Ce sont trois otages binationaux donc qui vont être libérés ce matin. Les trois hommes ont tous trois été kidnappés au kibboutz frontalier de Nir Oz le 7 octobre 2023. Alexandre Troufanov, 29 ans, possède également la nationalité russe. Il avait été enlevé avec sa compagne, sa mère et sa grand-mère. Tous trois ont été libérés en novembre 2023. Lors de la première trêve, le djihad islamique a diffusé des vidéos le montrant, notamment sur une plage à Gaza. Autre otage, Sagi Dekel Khen, 36 ans, est un israélo-américain. Il va rencontrer sa troisième fille, née pendant sa captivité. Yairon, 46 ans, est lui également citoyen argentin. Son frère Eitan, enlevé avec lui, est toujours captif à Gaza. Parallèlement, donc, Israël va libérer par la suite aujourd'hui 369 prisonniers palestiniens. 36 d'entre eux purgent des peines de prison à vie. 24 seront expulsés vers Gaza et vers l'Égypte.
Michel Paul, merci. En direct avec nous de Jérusalem, la trêve qui tient donc tant bien que mal, même si la suite du cessez-le-feu reste incertaine. Les négociations prévues sur la deuxième phase de l'accord n'ont toujours pas commencé.
Au Liban, à présent, la force de l'ONU, la FINUL, exige une enquête immédiate.
Après l'incendie de l'un de ses véhicules sur une route bloquée par des partisans du Hezbollah près de Beyrouth, un commandant adjoint de la FINUL a été blessé. La FINUL qui dénonce une violation flagrante du droit international pouvant être assimilée à un crime de guerre. Ce matin, le président libanais Michel Aoun promet de punir les responsables de cette attaque.
En République démocratique du Congo, le groupe armé du M23 progresse dans la province du Sud Kivu.
Les combats font rage alors que la crise sécuritaire dans l'est du pays doit être au cœur du sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui s'ouvre aujourd'hui. Bonjour Pauline Azidi.
Bonjour.
En direct avec nous de Kinshasa, sur le terrain, les hommes du M23 appuyés par l'armée rwandaise sont désormais signalés dans la capitale provinciale Bukavu.
Oui, c'est une information qui nous a été confirmée par une source gouvernementale hier dans la soirée, sans plus d'informations. Et en début de journée, ce vendredi, l'armée congolaise confirmait que le M23 et des militaires rwandais étaient signalés à l'aéroport de Kavumu, à 30 km de la ville de Bukavu. Alors à Bukavu, des tirs ont été entendus cette nuit, notamment du côté du camp Sayo, l'un des plus grands camps militaires de la zone. En raison de la situation, le président Félix Tshisekedi a écourté son séjour en Allemagne pour rentrer à Kinshasa. À Munich, le président était resté catégorique, pas de négociation avec la FCM23, qui n'est qu'un paravent que le Rwanda met en avant. Lors de cette même prise de parole, Félix Tshisekedi a pointé du doigt son prédécesseur, Joseph Kabila. Il l'accuse d'être impliqué dans l'opposition armée. Le chef de l'État, qui a une nouvelle fois appelé la communauté internationale à agir, ne rien faire, c'est déjà choisir, a-t-il lancé. Et selon la présidence, il ne se rendra donc pas au sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba, en Éthiopie, ce samedi, comme c'est était initialement prévu.
Pauline Azidi en direct avec nous de Kinshasa. Ce sommet de l'Union africaine dont vous parliez, lors duquel aura lieu l'élection du successeur de Moussa Faki Mahamat à la tête de la commission de l'UA. Moussa Faki Mahamat qui s'exprimera à l'ouverture du sommet ce matin, tout comme le premier ministre éthiopien et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui participait hier à une conférence sur la situation humanitaire au Soudan. Il a appelé à ce que le flux d'armes cesse dans le pays, à ce que les civils soudanais soient enfin protégés.
Sans soutien des États-Unis, l'Ukraine aura peu de chances de survivre.
Une déclaration hier de Volodymyr Zelensky dans une interview à la chaîne américaine NBC en marge de la conférence sur la sécurité de Munich où il a rencontré le vice-président américain J.D. Vance. L'Ukraine qui craint les récentes déclarations américaines jugeant irréaliste d'envisager un retour de l'Ukraine à ses frontières d'avant 2014. Mais la conférence sur la sécurité de Munich a surtout été marquée hier par des tensions peut-être sans précédent entre les États-Unis et les Européens. Récit de la journée, Oriane Verdier.
Difficile de savoir par où commencer tant les accrochages par discours et tables rondes interposées se sont multipliées hier. Il y a peut-être tout d'abord l'Ukraine avec l'annonce mercredi de négociations en direct entre Moscou et Washington. Pas de paix en Ukraine sans l'implication de l'Europe. On continuait de marteler les Européens hier. Même exigence de la part du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a rencontré hier soir le vice-président américain J.D. Vance en marge de la conférence de Munich. Mais de leur côté, les Américains semblaient avoir d'autres priorités. Attendu sur l'Ukraine, en effet, le vice-président américain s'en est pris aux démocraties européennes qu'il accuse de censurer les mouvements d'extrême droite. Dans la soirée, depuis la Maison-Blanche, Donald Trump a renchéri, s'inquiétant de voir l'Europe en train de perdre son merveilleux droit à la liberté d'expression. Pendant ce temps, son vice-président à Munich finissait la journée par une rencontre avec la porte-parole du parti d'extrême droite allemand, l'AFD. Elon Musk et d'autres proches de Donald Trump ont multiplié les gestes de soutien à l'égard de l'AFD à l'approche des élections fédérales allemandes dans 10 jours. Aujourd'hui, l'Ukraine, l'OTAN et l'Europe sont à nouveau au programme de la conférence de Munich, de quoi animer à nouveau les échanges.
Avec notamment la prise de parole attendue dans une demi-heure environ du chancelier allemand Olaf Scholz avant à la tribune le discours du président ukrainien Volodymyr Zelensky.
RFI 8h07 à Paris. En Haïti, l'incendie de l'hôpital général de Port-au-Prince attribué à une coalition de gangs.
Un incendie survenu jeudi en fin d'après-midi et qui plonge le secteur médical dans l'émoi, dans la consternation. Le personnel soignant dénonce un acte inacceptable, s'inquiète évidemment des conséquences pour l'avenir de cette institution sanitaire vieille de plus de 100 ans, considérée comme le plus grand centre hospitalier public du pays. À Port-au-Prince, Peterson Luxama.
L'hôpital général est depuis quelque temps la cible privilégiée des gangs qui contrôlent presque toute la capitale. Les services d'orthopédie, de chirurgie et la salle hébergeant les archives de l'hôpital ont été particulièrement touchés par le sinistre. Un appareil très coûteux qui permet d'extraire des projectiles des corps a été entièrement détruit par les flammes. Pour le directeur exécutif de l'hôpital, Dr Prince-Pierre Sonson, cette nouvelle attaque contre l'hôpital est tout simplement inadmissible et révoltante.
Même dans les pays en guerre, les institutions sanitaires et les médecins sont respectés. C'est avec dégoût et déception que nous constatons la situation dans laquelle se trouve le pays.
Colère et incompréhension également chez le secrétaire exécutif de l'association médicale haïtienne. Le docteur Ardouin-Louis Charles se demande jusqu'où veulent aller les gangs armés.
Nous exprimons notre indignation, notre colère. C'est trop, c'en est trop. L'État ne protège pas vraiment les institutions sanitaires.
Lorsqu'Haïti est en manque cruel d'infrastructures sanitaires standards, les gangs armés continuent de s'attaquer aux hôpitaux, aggravant ainsi la crise et privant la population de soins essentiels. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Direction à présent les États-Unis où c'est la première fois qu'un président américain prend la tête du Kennedy Center, un centre culturel national, une salle de spectacle, véritable institution culturelle américaine. Après avoir purgé le conseil d'administration, Donald Trump en a donc été nommé président, promettant des changements de programmation et qualifiant l'actuel de woke. Carlotta Morteau.
Rien de ce qu'on pouvait y voir ne m'intéressait, a déclaré Donald Trump, qui admet n'avoir jamais mis les pieds au Kennedy Center. Immense bâtiment situé le long du fleuve Potomac à Washington, c'est l'une des plus grosses institutions culturelles américaines. Il accueille 2 millions de visiteurs par an, plus de 2000 spectacles, opéras, théâtres, concerts, ballets. C'est aussi le berceau de l'Orchestre National Symphonique. Essentiellement classique, le répertoire s'est ouvert ces dernières années à une offre plus contemporaine pour, je cite, « représenter la diversité culturelle de l'Amérique ». Ce centre a toujours bénéficié d'un soutien politique bipartisan et n'est financé qu'à 17% par des fonds publics. Mais Donald Trump justifie sa mise au pas à cause d'un spectacle de drag queen proposé l'an dernier. Donald Trump a purgé le conseil d'administration pour y placer des fidèles. La directrice de l'institution a été limogée. Plusieurs cadres artistiques ont démissionné. Who's next? À qui le tour? C'est la question qui taraude désormais le milieu culturel américain.
Et Carlotta Morteo, les États-Unis toujours où la présidence annonce officiellement que l'agence Associated Press est interdite d'accès au bureau ovale et à l'avion officiel de Donald Trump, Air Force One, pour une durée illimitée en raison de son refus d'appeler le golfe du Mexique Golfe d'Amérique. L'Associated Press continue d'ignorer le changement de nom géographique légal du Golfe d'Amérique, a écrit sur le réseau social X le chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche.
En France, sous pression, le Premier ministre François Bayrou rencontre aujourd'hui à Pau le collectif des victimes de violences commises au collège-lycée de Bétarame.
Un établissement où le Premier ministre a scolarisé plusieurs de ses enfants. Le Premier ministre qui a déclaré mardi à l'Assemblée n'avoir jamais été informé des violences commises dans cet établissement catholique réputé pour sa fermeté. Une enquête de Mediapart révèle pourtant plusieurs témoignages qui affirment qu'il aurait été alerté au sujet de ces violences éducatives et sexuelles lorsqu'il était ministre de l'Éducation dans les années 90.
Et puis Zao de Sam Gazan, Gims ou encore Santa et Pierre Garnier.
Et oui, voilà les noms de certains des vainqueurs hier soir de la 40e cérémonie des Victoires de la Musique. C'est en France, à l'honneur aussi hier soir les cérémonies des Jeux Olympiques. Sacré meilleur concert de l'année, les Victoires de la Musique, qui fêtaient donc leur 40e anniversaire. Olivier Roger a suivi la soirée.
Joyeux anniversaire. Quoi de mieux que d'inviter Philippe Catherine pour fêter ses 40 ans. Bien que reparti bredouille, l'ambianceur en titre de la chanson française a tenu à participer joyeusement à la fête. J'ai des poils blancs sur les testicules. Une fête qui a consacré celle qui triomphait déjà l'an dernier, Zao de Sagazan, meilleure artiste féminine. Son homologue masculin Gims a eu un mot pour le pays de ses parents et de son cœur, le Congo.
C'est juste un message humain, parce que c'est inhumain justement ce qui se passe là-bas et voilà, j'aimerais qu'on y pense quelques minutes, c'est tout.
Le meilleur album de l'année revient à Santa pour Recommence-moi et sa pop énergique.
Je la voulais celle-ci, je la voulais.
Côté révélation, Solane remporte la victoire chez les femmes et Pierre Garnier chez les hommes. Pierre Garnier a aussi eu les faveurs du public qui votait pour la chanson originale. La série documentaire sur le génial DJ Mehdi a été sacrée création audiovisuelle de l'année, tandis que les cérémonies des Jeux Olympiques ont reçu la victoire du concert de l'année. Son initiateur Thomas Joly en a profité pour faire passer un message.
Je m'étonne, dans cette période de tourments multiples, de voir ici ou là les moyens pour la culture affaiblis ou tout bonnement retirés.
Voilà l'hymne de ces JO de Paris signé Victor Lemann. On est un peu nostalgique, Julien.
Oui, ça rappelle des souvenirs d'été, de cours de récré. Voilà. Merci, John Bartoli. À tout à l'heure. RFI Matin, la suite, c'est un nouveau journal dans un peu plus d'un quart d'heure. Le point complet sur l'avancée du M23 dans le Sud Kivu et les enjeux du sommet de l'Union africaine qui débute aujourd'hui. À suivre d'ici là, notamment jusqu'où va la science. Et faut-il craindre cet astéroïde qui pourrait s'écraser sur Terre en 2032? Mais tout de suite, et plus près de nous, c'est la revue de presse. Avec vous, Catherine Potet, le tour de la presse internationale. À la une, la presse européenne vent debout contre le vice-président américain J.D. Vance.
La démocratie, selon J.D. Vance, sidère les Européens, titre Le Monde. À la conférence de Munich sur la sécurité, poursuit le quotidien français, le vice-président américain a tenu un discours à charge contre ses alliés historiques à propos du droit de vote et de la liberté d'expression. Il était attendu sur l'Ukraine. Il a préféré donner aux Européens une leçon leçon sur la démocratie. À Londres, le Guardian parle d'un sermon sur ce que le vice-président américain considère comme l'incapacité du continent à écouter les préoccupations populistes des électeurs. J.D. Vance a ainsi déclaré « La démocratie ne survivra pas si les préoccupations de son peuple sont jugées non valables ou pire encore, ne méritant pas d'être prises en compte ». À Bruxelles, le soir cite le député ukrainien Oleksiy Goncharenko, selon lequel ce discours prononcé devant le Gotha mondial de la diplomatie et de la défense a laissé les dirigeants européens choqués par cette humiliation totale. Enfin, Madrid El País parle d'une attaque idéologique virulente contre les pays européens, alors que le monde plonge dans une spirale dangereuse de confrontation entre puissances. La presse européenne sidérée et indignée, donc là où la presse américaine passe les propos du vice-président quasiment sous silence.
Tout autre chose à présent, Catherine, avec cet article paru dans Haaretz.
Le quotidien israélien d'opposition a rencontré Bazel Adra, réalisateur palestinien du film No Other Land en lice aux Oscars, un documentaire qui, expertise, sensibilisera en Israël et à l'étranger sur la situation difficile de sa communauté assiégée en Cisjordanie. Il reconnaît toutefois, c'est la pire période que nous ayons jamais vécue. C'est difficile de dire quelque chose d'encourageant. Je vois que Trump a annulé les sanctions qui avaient été imposées à certains colons. Il est clair qu'il n'aura aucun scrupule a cédé officiellement la Cisjordanie à Israël. Ni le droit international, ni la morale n'empêcheront Israël et les États-Unis de nous expulser, dit-il. Bazel Adra ne peut toutefois s'empêcher d'espérer. Il cite notamment le cas d'un vieil homme frappé à la tête à coups de matraque, transporté d'urgence à l'hôpital. Et la première chose à laquelle il pense, c'est à rentrer chez lui, être à la maison, voir ses petits-enfants. Ça me donne, explique Bazel Adra, l'envie de continuer à lutter, à raconter ses histoires.
Enfin, en France, la polémique autour de Kamel Daoud rebondit.
L'écrivain franco-algérien, vainqueur du prix Goncourt avec son dernier livre, Ouris, est assigné devant la justice française pour atteinte à la vie privée d'une femme grièvement blessée lors d'un égorgement en juillet 2000 pendant la décennie noire en Algérie, marquée par le terrorisme islamiste. Elle était à l'époque une petite fille et a perdu dans ce massacre ses parents et 5 frères et sœurs. Cette jeune femme, aujourd'hui âgée de 31 ans et que Mediapart a pu interviewer, s'appelle Saada Arban et elle accuse Kamel Daoud d'avoir volé son histoire qu'elle avait confiée à une psychiatre qui se trouve être l'épouse de l'écrivain. « Il y a toute mon histoire dans ce livre », explique-t-elle. « Il a juste changé les dates, le contexte, le prénom. Je ne suis pas la seule à le penser. Tous mes proches m'ont reconnue dans ce roman. » Elle tient à s'exprimer, explique Mediapart, malgré tout toutes les polémiques, notamment celles qui ont laissé entendre qu'elles pouvaient être instrumentalisées par le pouvoir algérien. Le complot, tout ça, j'en ai rien à faire, assure Saada Arban, qui dit aussi avoir à 3 reprises décliné l'offre de sa psychiatre qui aurait tenté d'obtenir son autorisation pour utiliser son histoire dans le roman de son conjoint. Mediapart cite les nombreuses similitudes entre l'histoire de la jeune femme et le roman, notamment le fait qu'elle porte encore une longue cicatrice à la gorge et qu'elle respire par le biais d'une canule. Kamel Daoud nie en bloc, parle de diffamation et assure que cette jeune femme a raconté son histoire partout. Saada Arban, elle, déclare que ce qui lui a fait mal, c'est la trahison, pas autre chose.
Catherine Potet pour la revue de presse, merci beaucoup.
RFI Matin.
Jusqu'où va la science ? Bonjour Caroline Lachowski.
Bonjour Julien.
Attention, chute d'astéroïdes. La communauté astronomique internationale surveille de très près un petit astéroïde qui pourrait percuter la Terre en 2032.
Pas de scénario catastrophe tout de même pour le moment, mais l'astéroïde 2024 YR4, qui a été détecté le 27 décembre dernier par un télescope automatique au Chili, a tout de même 2% de chance de percuter la Terre en 2032, selon les simulations de sa trajectoire effectuées par la NASA et l'Agence spatiale européenne, soit un risque suffisant pour que ce bolide, ce petit corps céleste d'un diamètre estimé entre 40 et 90 mètres, ait fait l'objet d'une notification au réseau international d'alerte aux astéroïdes. Créé en 2013 sous l'égide de l'ONU, le comité de pilotage de ce réseau est alerté dès qu'il y a plus de 1% de risque dans les 50 ans à venir de collision d'un objet céleste avec la Terre. Ce qui est le cas de 2024 YR4, parmi les quelques 37 000 astres géocroiseurs recensés comme susceptibles de croiser la route de la Terre, c'est même le plus dangereux. Voilà pourquoi les scientifiques de ce réseau d'alerte planétaire ont prévenu le 30 janvier dernier le groupement consultatif sur la planification des missions spatiales pour décider ensemble de la marche à suivre et notamment s'il faut envisager de lancer un satellite pour percuter l'astéroïde afin de le dévier de sa trajectoire comme cela a déjà été expérimenté avec succès en 2022 par la mission DART de la NASA.
Il est si dangereux que ça, Caroline, ce petit astéroïde ?
Rassurez-vous, Julien, il s'agit d'abord du principe de précaution, 2% de risque de collision avec la Terre en 2032, ce n'est pas nul, mais ça laisse heureusement 98% de chances de passer à côté. Il faut donc, avant de s'affoler, affiner la trajectoire de cet astéroïde tant qu'il est visible. Les astronomes ont donc demandé un temps d'observation au télescope spatial James Webb, en mars, pour préciser sa trajectoire, car ensuite il faudra attendre son prochain passage en 2028. Et comme le spécialiste des astéroïdes, Patrick Michel, du CNRS, à l'Observatoire de la Côte d'Azur, qui est également membre du comité de pilotage du réseau d'alerte international aux astéroïdes, l'a précisé au journal Le Monde, le temps sera compté en 2028. Si la collision avec la Terre est confirmée, en 2032, le temps sera compté pour lancer une mission de déviation de l'astéroïde. Restera tout de même une autre option. Déterminer le lieu exact, le couloir en fait, sur lequel 2024 YR4 pourrait tomber afin de prévenir et d'évacuer les populations concernées. Le journaliste Pierre Barthélémy, dans cet article du Monde, rappelle tout de même que le 30 juin 1908, un bolide venu de l'espace a explosé en Sibérie, dans la région de la Tunguska, détruisant des dizaines de milliers d'arbres de la taïga sur plus de 2000 km². Heureusement, cette région était inhabitée. Le corps céleste qui y a explosé était autour d'une cinquantaine de mètres de diamètre, soit à peu près l'équivalent de notre 2024 YR4. D'où l'intérêt de surveiller, de scruter le ciel et de surveiller précisément cet astéroïde qui a pour l'heure 2% de risque de tomber sur Terre le 22 décembre 2032. Soyons précis avant que le ciel ne nous tombe sur la tête.
Jusqu'où va la science ? Et Caroline, on vous retrouve la semaine prochaine au programme d'Autour de la question ?
Les migrations humaines, animales et même végétales autour de deux expositions et autour de la question pourquoi tout migre. Et puis mardi, pourquoi tout est histoire de molécules, la vie, l'amour, la mort, racontée par un chimiste. Qui dit mieux ?
Bienvenue dans le game, comme chaque samedi. Bonjour Jennifer Lufaux.
Bonjour Julien.
Aujourd'hui, on va parler des personnalités oubliées du jeu vidéo.
Oui, en février, les Américains célèbrent le Black History Month, donc l'histoire des cultures noires, et je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire connaître des personnalités marquantes du jeu vidéo. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'enrichir vos connaissances du secteur en découvrant trois personnalités noires qui ont contribué au développement du jeu vidéo dans le monde et qui pourtant sont trop souvent oubliées. Et on commence avec Jerry Lawson. C'est une figure incontournable de l'histoire du jeu vidéo. C'est lui qui a conçu et développé en 1976 la Fairchild Channel F, l'une des toutes premières consoles de jeux vidéo à cartouches interchangeables. Grâce à Lawson, les joueurs pouvaient désormais profiter d'une variété de jeux sans avoir à acheter une nouvelle console à chaque fois. Son innovation a posé les fondations de l'industrie du jeu vidéo telle que nous la connaissons aujourd'hui.
Vous nous présentez ensuite une développeuse française.
Oui, c'est une autre figure incontournable du jeu vidéo, et elle est française, et plus précisément de Martinique. Il s'agit de Muriel Tramis. Elle a travaillé chez Cocktail Vision et a créé des jeux d'aventure qui ont marqué toute une génération. Mais elle est surtout connue pour avoir travaillé sur les jeux Addy, les premières versions de Addy Boo qui ont marqué une génération d'enfants. avec d'autres titres comme Mary Lou en 1992 ou encore Geisha en 1990, Muriel Tramis a gagné son pari de raconter des histoires qui ont du sens et de diffuser des cultures caribéennes et enfin d'ouvrir la voie à d'autres femmes dans le secteur. Continuons avec Mike Pondsmith, qui lui est un auteur de jeux de rôle. Il est surtout connu pour avoir créé l'univers de cyberpunk dans les années 80, un monde futuriste, sombre et dystopique qui a inspiré de nombreux jeux vidéo, films et romans. C'est grâce à lui que nous pouvons aujourd'hui explorer des villes futuristes, peuplées de cyberpunk et de néon. Et son univers a inspiré de nombreux créateurs. D'ailleurs, il a travaillé comme consultant narratif auprès des développeurs du célèbre jeu vidéo Cyberpunk 2077.
Et Jennifer, pourquoi est-il important de connaître ces personnalités ?
En fait, en mettant en lumière les contributions de Jerry Lawson, Muriel Tramis et Mike Pondsmith, nous rendons hommage à des pionniers qui ont vraiment inspiré des générations de développeurs et qui ont contribué à faire du jeu vidéo l'industrie culturelle qu'il est aujourd'hui. Et aussi, en reconnaissant le rôle de ces personnalités, on contribue à déconstruire les stéréotypes et à montrer que la diversité est une richesse dans le monde du jeu vidéo. Ce sont des pionniers qui nous rappellent que la créativité ne connaît pas de frontières et que chacun, quelles que soient ses origines ou sa couleur de peau, peut apporter sa pierre à l'édifice.
Bienvenue dans le game. Merci Jennifer Dufaux.
RFI Matin.
Bientôt 7h30 en temps universel, avant le journal Afrique, dans 5 minutes, notre reportage culture et la première rétrospective en Europe de la grande artiste colombienne Olga de Amaral. L'exposition rassemble près de 80 œuvres de cette figure incontournable de l'art du textile des années 60 à nos jours, de ses tissages influencés par les textiles anciens de son pays, aux sculptures en trois dimensions. C'est à la Fondation Cartier à Paris et Muriel Mahalouf nous y emmène.
Olga de Amaral, avec notamment l'américaine Sheila Hicks ou la polonaise Magdalena Abakanowicz, a contribué dans les années 60 à élever l'art du textile considéré comme mineur jusque-là, car dévolu aux femmes, au rang d'art noble. En fil de lin, coton, crin, métal ou or, les tissages d'Olga de Amaral sont des sculptures de couleurs, parfois monumentales et où domine la géométrie. Marie Pérennes, commissaire.
Olga est colombienne, elle vient des Andes, là où il y a une tradition textile ancestrale très forte. Et évidemment, elle a vu les sites archéologiques importants. Il y a un musée de l'or à Bogota dans lequel il y a des vestiges, notamment de bijoux, tous très géométriques, des triangles, des carrés, des spirales, des formes qu'on retrouve beaucoup dans l'œuvre d'Olga. Et puis, la deuxième grande influence, je dirais que c'est sans aucun doute le modernisme et l'héritage du Bauhaus. Donc elle étudie selon cette philosophie-là, dans une esthétique qui se veut très formellement construite selon une grille et des motifs géométriques extrêmement prégnants. Et ça, on le retrouve beaucoup aussi dans son travail.
La spirale est aussi un motif récurrent chez l'artiste.
La spirale, elle parle aussi de l'infini cycle de la vie qui recommence éternellement, des perspectives temporelles qui sont très chères à Olga. Et c'est vrai que le temps est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans son travail, le temps long, celui du tissage, bien entendu, sur le métier à tisser, qui est un temps infini, propice à la méditation. Donc on a pensé le sous-sol selon ce cycle, en suivant cette spirale.
Un sous-sol à la Fondation Cartier où s'offre toute la richesse du travail d'Olga de Amaral. À ces trames tissées viennent se superposer le papier de riz et plus tard la feuille d'or, comme dans cette œuvre qui fait partie de la série Alchimias ou Alchimie.
C'est effectivement une œuvre pour laquelle Olga utilise de la feuille d'or. C'est l'or de l'art précolombien, très riche, mais c'est aussi l'or pillé par les colons espagnols lorsqu'ils arrivent en Colombie. Puis plus tard, c'est l'or des autels des églises catholiques qu'elle visite lorsqu'elle est enfant avec sa mère. Donc au début, elle utilise la feuille d'or pour souligner les coutures dans ses œuvres. Et puis très vite, l'or va essaimer, va prendre toute la surface de l'œuvre. Et c'est vraiment chez Olga cette recherche de la lumière.
La Fondation Cartier déploie ainsi l'univers textile aérien et puissant d'Olga de Amaral dans une scénographie subtile de l'architecte Lina Rotmé. Une exposition qui invite à la méditation entre couleurs et matières.
Muriel Mahalouf pour notre reportage culture que vous retrouvez bien sûr sur notre site RFI.fr et notre application Pure Radio. Le journal dans une minute. À tout de suite.
RFI à Jérémy, 92.7 FM. Rodrigue, 93.2 FM. Un jour au village, Penaï Traoré.
Le fonio fait partie des aliments de base en Guinée. Si cette céréale est longtemps restée à la seule consommation des ménages dans les zones rurales, elle est devenue ces dernières années une culture commercialisée. Mais malgré une mécanisation partielle, des difficultés demeurent dans la chaîne de production.
Un jour au village avec Penaï Traoré, tout à l'heure à 13h10 TU sur RFI. L'épopée des musiques noires.
Après New York et Los Angeles, l'auteur Philippe Rossa, passionné par l'histoire du rock, nous présente les hauts lieux de Chicago. On y redécouvre un passé glorieux, celui des pionniers du jazz, du blues, du gospel, de la soul et même de la house music. Avec son livre Streets of Chicago, il met en lumière des bâtisses, des rues et des avenues arpentées pendant des décennies par les témoins et acteurs de l'épopée des musiques noires. Rendez-vous tout à l'heure avec Joe Farmer à 13h31.
RFI.